autre défaut, c'est la curiosité.
Nous avons enfin un dernier sujet qu'il nous faut aborder. Les pirates et leur satellite radio.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Je suis fier de vous annoncer que je serai bientôt le premier à prononcer le mot interdit qui commence par F.
Sur RTL.
Mon propos n'est pas de choquer, c'est de distraire.
Mais c'est aussi peut-être un peu pour vous éduquer.
Extrait du film Good Morning England qui raconte justement l'histoire de Radio Caroline. Radio Caroline, bonjour Georges Lang.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue dans notre studio.
Très heureux de vous retrouver, la voix de nos nuits depuis quelques décennies sur RTL.
On va pas le dire.
On va pas le dire, voilà, on va rester tranquille. Et on va raconter grâce à vous comment ces radios pirates se sont créées. Alors, Radio Caroline, c'est en Angleterre, mais il y a eu des expériences avant, c'est
ah
ça?
Ah oui, ils ne sont pas les précurseurs.
Oui.
En fait, pour ne rien vous cacher, ce sont les Danois qui ont ouvert la première radio pirate. En effet, chez eux, comme dans tous les pays d'Europe, il y avait un monopole d'État et on n'avait pas le droit de faire de la radio commerciale. Donc, ils ont contourné le problème et deux Danois ont imaginé d'installer une station de radio sur un bateau. C'était une première. Mmh. Un bateau ancré en dehors des eaux territoriales, c'est-à-dire en haute mer, car il se fonde sur le statut juridique que le droit international donne à la haute mer et qui stipule que ces zones ne sont sous la dépendance d'aucun État. Ce qui veut dire qu'ils sont complètement free, libres de faire ce qu'ils veulent.
Et de là, ils peuvent diffuser tout ce qu'ils veulent aussi, c'est ça? Et
ça dépend des choses de la puissance que les autres de leur émetteur. Hein.
Ouais. Ah, oui. Oui.
Alors, ils aménagent un bateau de pêche qui bat pavillon panaméen, le Cheetah, et ils commencent à émettre en direction de Copenhague le 11 juillet 1958, donc bien avant le début de Radio Caroline. C'est la naissance de Radio Mercure, sans eux, s'il vous plaît, la première des radios pirates modernes.
Et c'est la naissance aussi du terme radio pirate, Jean-Jean.
Oui, on peut dire que c'est ça. On n'est pas, c'est pas écrit, mais...
Parce que c'est un peu illégal, quand même, pirate.
Mais oui, bah c'est ça, ils sont un peu...
C'est sulfureux.
Un peu hors la loi, parce qu'ils se fichent un peu du monopole du pays qu'ils arrosent, en fait. Ils sont pas bien vus par les autorités locales. Et donc, ils doivent surmonter quelques difficultés, parce que le gouvernement danois brouille leurs fréquences, dans un premier temps, et réussit à faire perdre au bateau son pavillon panaméen. Et puis après, il y a eu les tempêtes, parce qu'on est en mer du Nord, donc c'est un peu compliqué de faire de la radio sur un bateau, la mer n'est pas si calme que cela, et il y a eu un dématage d'antenne, des problèmes d'ancrage, tout ça n'a rien arrangé. Malgré tout, Radio Mercure est un succès et fait des émules. Mais le 21 avril 1960, c'est le début de, pour moi, la première radio, la vraie radio que l'on connaît, nous, de ma génération en tout cas, Radio Véronica. Et ça, on le doit à des Hollandais qui diffusent vers la Hollande. Et très vite, écoutez bien ce que je vais vous dire, l'audience de Radio Véronica est estimée à 5 millions d'auditeurs.
Pourquoi c'est un souvenir incroyable pour vous, cette Radio Véronica? Nous, on n'y était pas. Alors, qu'est-ce qu'on entendait? Quel était le son qu'on entendait? Qu'est-ce qui vous faisait vibrer, Georges Lang?
Radio Véronica, c'est une radio de vrais pirates. Les Hollandais ne sont pas des gens sages. Ils aiment bien un peu bousculer les habitudes. Et on entend sur Radio Véronica des choses qu'on n'entendait pas sur Radio Mercure. Radio Mercure, c'était plus sage. Oui. Et puis, c'était bien avant. Moi, j'étais pas l'ado qui écoutait Radio Mercure.
Oui. Alors, Georges, on va avancer dans le temps jusqu'au donc, milieu des années 60. Et on va raconter la création de Radio Caroline, donc il s'inspire des Danois puis des Néerlandais, des Britanniques qui créent cette radio pirate le 27 mars 1964. Qu'est-ce qui est à la manœuvre? Qui crée cette radio?
Alors c'est un Irlandais qui s'appelle Ryan O'Reilly. Lui, il est passionné par la musique, c'est un homme d'affaires en Irlande, mais il a une discothèque qui marche très bien, le Sin Club à Londres, et il produit quelques artistes. Vous vous souvenez peut-être de Georgie Fame qui chantait mais c'était lui qui manageait ça. Donc il s'est dit, pourquoi pas finalement, puisque la BBC ne passe pas ce genre de choses, c'est une radio austère, que Radio Luxembourg, faut payer pour passer les disques, je ne vais pas créer moi-même ma propre radio. Et il s'est dit, je vais le faire. Allez, je vais monter une radio sur un bateau.
Donc il trouve un raffio.
Il achète un bateau, des émetteurs, et en avant la musique, comme on dit, il se débrouille pour que Radio Caroline soit un véritable succès.
Et vous voulez savoir quel est le premier titre diffusé par Radio Caroline en 64? Écoutez.
You're tuned to Radio Caroline on 199, your all-day music station.
Can't buy me love. Can't buy me love. I'll buy you diamond ring, my friend, if
Les Beatles, Can't Buy Me Love sur la radio Caroline, radio pirate. C'est pas très pirate et rebelle ça, les Beatles.
Ah bah, à l'époque on n'entendait pas les Beatles. Non, il n'y avait pas de radio.
Sur la BBC, ils diffusaient pas les Beatles.
Ils écoutaient ça le soir. Sur Radio Luxembourg, comme je le disais, c'était un peu monétisé. Ouais. On brouillait les pistes là. Et donc il était difficile de passer des choses comme ça. Il y avait deux labels anglais qui faisaient la loi aux États-Unis, plutôt en Europe, mm-hmm. en Europe du Nord. C'était EMI et Decca. À côté de cela, les autres labels n'avaient pas droit au chapitre. Ils ramaient comme des malades pour avoir des diffusions et ça marchait pas.
Ouais, qu'est-ce qu'on entend, Georges, sur Radio Caroline ? Donc là, on dit les Beatles. C'est qui les groupes, les musiques qu'on entend là-bas ? Et donc, le succès, il va être là. Parce qu'évidemment, la jeunesse, tout le monde va vouloir écouter ça. Quoi.
Alors écoutez, on croirait une programmation de Beach Party sur RTL. Les Beatles, les Rolling Stones, les Animals, les Kings, les Who, les Pretty Things, les Searchers, Jimi Hendrix, les Troggs. Le Spencer Davis Group, Herman Sermitz, les Hollies, Georgie Fame, on en parlait, Them, Alan Price, et puis quelques Américains quand même, Sam Desham and the Pharaohs, Chuck Berry, Elvis bien sûr, les McCoys, et tous les artistes des stations de radio Top 40, je le disais, qui sont programmés dans les émissions sur RTL, dans Beach Party, notamment en été.
Dans les belles émissions de Georges Lang.
Thomas Hugues.
Wow!
Sidonie Bonnec.
Qu'est-ce que c'est?
Sadoui, c'est l'émetteur de ma radio pirate.
La curiosité est un vilain défaut.
Il n'était pas extrêmement puissant, mais j'apportais la bonne parole à tout le monde dans un rayon d'au moins 3 blocs sur le campus. Jusqu'à ce que les fédéraux interdisent l'émission à cause de son contenu subversif.
Sur RTL.
Il y a tant de choses, mes chers auditeurs, que le gouvernement ne veut pas vous dire. C'est pour ça qu'il ne veut pas de Kid Charlemagne à ce micro.
C'est la journée mondiale de la radio et avec Georges Lang. On en profite pour se plonger dans l'histoire des radios pirates et notamment de Radio Caroline, créée en 1964 par un Irlandais patron de discothèque à Londres. Et c'était des radios, c'était fou ça maintenant quand on y pense, qui émettaient depuis des bateaux au large de l'Angleterre.
Des rafios.
Des rafios même, voilà.
Rouillés.
Et l'idée c'était de défier évidemment l'État et le monopole de la BBC pour diffuser cette musique qu'il y avait dans les rues de Londres, dans le cœur des Anglais. On pouvait écouter quand on était jeune du rock, de la pop sur ces radios. Et avec vous, on est sur ce rafio, donc on est à bord du Fredericia, pardon.
Ah oui, c'est compliqué à dire, Fredericia.
Fredericia, voilà.
Oui. C'est le premier de Radio Caroline, parce que par la suite, il y en a eu un deuxième, parce qu'ils étaient en compétition avec Radio Atlanta, et après s'être détestés, ils se sont aimés, ils se sont associés, et ils ont repris le bateau de Radio Atlanta pour en faire un bateau qui arrosait une autre partie de l'Angleterre, comme ça toute l'Angleterre était arrosée, et c'était le Miami Go, le deuxième bateau.
Et de ces rafios, on pouvait écouter ça, par exemple.
Georges Lang, comment se fait la programmation musicale sur ces radios pirates ? C'est chaque DJ, chaque animateur qui a sa liberté ?
Au début, c'est un peu n'importe quoi, c'est vrai. Et beaucoup de DJs ne prenaient pas les nouveautés et choisissaient leur disque personnel pour faire la programmation. Mmh. Puis après, ça a été quand même un petit peu structuré, parce que les radios pirates, comme toutes les radios, ne devaient pas être déficitaires. Au départ, c'était déficitaire, ils ne gagnaient pas d'argent. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, à votre avis ? Ils ont mis de la pub.
Bah oui.
Et ce sont les précurseurs de la radio avec de la publicité. Des premières radios commerciales, ce sont les radios pirates, puisque les autres radios, la BBC, c'était des radios d'État, il n'y avait pas de publicité, comme l'ORTF à l'époque en France.
Eh oui, mais il y a aussi cette idée de liberté dans ces radios. Qu'est-ce qu'on pouvait dire sur Radio Caroline ou Radio Atlanta, etc. Il y avait Radio London aussi. Qu'est-ce qu'on pouvait dire sur ces radios qu'on ne disait pas à
sur
la BBC,
par exemple, ouais.
Est-ce que, par exemple, je sais pas, on pouvait parler de sexe, on pouvait parler, il y a des choses.
Non, pas du tout. C'était pas la libre antenne. Non, mais on passait des disques qui étaient pour les autorités subversives, mais c'était la musique que la jeunesse voulait entendre. C'était le début de la British Invasion. Tout ce qui ne marchait pas en Europe marchait déjà aux États-Unis. C'était incroyable, quoi. Donc, ils se sont dit, allez, il faut quand même passer nos talents locaux. Il faut qu'on passe les Stones, les Beatles, les Animals, les Kings et tous ces groupes que j'ai donné tout à l'heure. Et c'est comme ça qu'ils sont devenus pirates, parce qu'ils ont fait ce qu'ils voulaient, ce qu'ils ressentaient. Moi, j'ai fait un peu ça aussi sur RTL, en fait. Il ne faut pas trop le dire.
Et vous le faites toujours.
Mais quand je suis arrivé, j'ai dit, moi, je programme ce que je veux. Et ça a marché. Et je remercie toutes les radios, tous les présidents qui m'ont laissé faire. J'en ai vu passer.
Georges Lang, travailler sur un bateau. Enfin, il faisait des allers-retours. Il dormait sur le bateau. Il vivait. Enfin, c'est quoi la vie de ces animateurs et techniciens à bord?
C'était l'horreur. Je peux vous en parler parce que tous les animateurs de ces stations pirates, ces DJs, sont devenus pour certains des amis parce qu'ils sont partis. On en parlera plus tard.
Ils sont passés par Radio Luxembourg.
Exactement. Et ils m'ont raconté des choses exceptionnelles. On refaisait le monde, on refaisait la radio la nuit après nos émissions respectives.
On dormait où? On dormait comment dans ces bateaux de radio pirates?
On dormait un peu n'importe où. On s'ennuyait ferme en tout cas. Parce que les DJs venaient 2 semaines travailler en direct sur l'antenne. Et après on les débarquait 1 semaine sur la Terre. À condition que les conditions atmosphériques le permettent.
S'il y avait une tempête, il restait à bord.
Et là, il y avait un problème après d'alimentation, parce qu'il n'y avait plus rien à manger. Je demandais au président Roscoe, qui est un de mes vrais potes que j'ai encore vu l'année dernière.
Qui était animateur, parce que président Roscoe, mais animateur.
Animateur, voilà. Mais en Angleterre, il s'appelait Emperor Roscoe. L'empereur Roscoe. Oui. Je lui demandais ce qu'il mangeait, s'il y avait un chef sympa qui faisait des petits plats pour les DJs. Il m'a dit non, potatoes. Le chef était Hollandais, c'est les fèves. Il ne savait rien faire d'autre que des patates.
Et il en garde un bon souvenir de cette époque de Radio Pirate sur des bateaux, Radio Caroline.
Tous les DJs qui sont passés sur les Radio Pirates, ils ont eu leur heure de gloire. Ce sont des stars, des héros. Et pour le monde de la radio, et pour les auditeurs. Quand ils débarquaient sur Terre, ils étaient aussi adulés que les Beatles ou les Rolling Stones. C'était des héros, des pirates, avec un grand P. Ouais. On les respectait.
Est-ce qu'il fallait avoir le pied marin? Est-ce que certains des animateurs de Radio Caroline avaient été recrutés aussi parce qu'ils avaient le pied marin? Vous voyez ce que
Exactement.
Je veux dire?
Alors Dave Cash, par exemple, qui travaillait sur une autre radio, Radio London, lui, il était super, à l'aise, jamais malade. De même que Emperor Roscoe. Pourquoi? Parce que lui, quand il était aux États-Unis, il a fait son service militaire dans la marine américaine et il présentait déjà une émission, mais à bord d'un porte-avions, s'il vous plaît. Ouais. C'était différent des refios de Radio Caroline. Par contre, Paul Burnett, qui a été par la suite à Luxembourg, que je connais bien, lui, c'était malade, mais 80% du temps, ainsi que Stuart Henry, qui travaillait sur Radio Scotland, et tous les deux m'ont confié que souvent ils travaillaient avec un seau entre les jambes.
Alors imaginez
J'imagine le studio qui tangue là. Je commence déjà à avoir le mal de mer.
Imaginez le DJ, le seau entre les jambes, qui balance ça sur Radio Caroline. N'entendez pas le mal de mer, la bonne musique qui a passé, c'est les Kinks sur Radio Caroline et sur RTL grâce à notre DJ Georges Lang. Et l'histoire de Radio Caroline va mal finir, figurez-vous.
RTL. Nous nous sommes levés ce matin-là, les bandes étaient prêtes dans la cabine de contrôle. Pour la première émission, nous avions des bandes. Mais il fallait être en direct, évidemment, pour la première annonce.
La curiosité est un vilain défaut.
Tout était prêt. Vers 11h30, nous avons vérifié l'indicatif de Caroline, qui était « Round Midnight » par Jimmy McGriff, la musique de notre station.
La voix de Ronan O'Reilly, le fondateur de Radio Caroline, Radio Caroline, l'une des premières radios pirates en Angleterre. Georges Lang nous raconte cette histoire.
Oui, non, mais c'est surtout la traduction de Jean-François Johan, qu'on salue s'il nous écoute.
Ouais, on le salue effectivement. Cette histoire, donc, il y a Ronan O'Reilly, vous l'avez dit, c'est un patron de discothèque qui se dit « il faut diffuser la musique que la jeunesse britannique veut écouter ». Allez hop, on achète un rafion, on y va. Est-ce qu'ils payent des droits d'auteur, par exemple? Comment ça marche?
Il y a une radio qui a commencé à payer des droits d'auteur, donc les autres ont suivi, parce qu'ils n'avaient pas envie d'être les méchants, les profiteurs. Donc ça, ils l'ont réglé. Et par la suite, quand ils ont lancé de la publicité, ça a tellement marché que je vais vous donner des chiffres qui donnent le tournis. Radio London, c'était la première radio, c'est pas Radio Caroline. Oui. Elle comptait 8 390 000 auditeurs. Ouf. Radio Caroline, 6 270 000. Et la troisième, Radio Scotland, 2 450 000. Faites le compte. 8 et 6, 14 et 2, 16. 17 millions. Ouais. Et 7 millions d'auditeurs.
Et donc la BBC, la vénérable BBC, elle perdait tous les jours
leur auditoire. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de créer une radio qui serait une radio rock et qui s'appellerait Radio One.
Une radio commerciale avec de la publicité aussi, c'est
pas ça? Au départ. Après, je crois qu'ils ont commencé à mettre un peu d'eau dans leur vin, mais au départ, non, c'est la BBC.
Et sur ces radios pirates, on pouvait écouter ça, par exemple.
Un groupe de Birmingham, ça.
Les Fortunes. Ils ont joué longtemps.
Ils ont eu leur heure de gloire. Ouais. Bon, ça n'a pas trop traversé la Manche, mais chez eux, en Angleterre, ils étaient assez connus. Ouais.
Mais d'ailleurs, le titre, c'est Caroline, donc forcément, il était diffusé sur Radio Caroline. Pourquoi ce nom? Pourquoi le fondateur choisit de l'appeler Radio Caroline?
Vous avez une petite idée ou pas?
J'ai préparé l'émission, donc je crois que ça a à voir avec, avec un certain locataire de la Maison Blanche.
Exactement. Ouais. Il était fou dingue des Kennedy, de la famille Kennedy, Ryan O'Reilly, et un jour, en allant à New York, il est tombé sur une revue avec une photo de la petite Caroline qui était sous le bureau présidentiel, dans le bureau ovale, et tout le monde souriait, même les collaborateurs politiques de John Fitzgerald Kennedy, et cette photo a été prise, et Ryan O'Reilly a dit, c'est ça que je veux, c'est cette image-là que je veux, c'est une petite fille qui bouleverse tout. Nous, la radio, elle va tout bouleverser. On aime cette imagerie, et on va appeler notre radio Caroline. Et plus tard, il s'est aperçu que ce prénom-là, Caroline, était le prénom le plus usité à l'époque en Angleterre.
Bien vu.
Combien d'années elle a émis Radio Caroline? Des eaux britanniques.
On ne peut pas le dire puisque l'aventure n'est pas terminée.
Et ça existe encore. Mais sous une forme plus classique.
Bien sûr.
Et toujours en mer ou à terre?
Je vais vous dire, Ronan O'Reilly, il a d'abord acheté un bateau qui s'appelle Ross Revenge. Et puis par la suite, quand il y a eu de nouvelles technologies, il est monté sur Internet, et sur satellite, et il a fait de la web radio. Et elle existe encore avec une faible puissance parce qu'il a obtenu finalement, je ne sais même pas s'il l'a demandé, mais on lui a donné une fréquence officielle avec une puissance ridicule d'un kilowatt. Ouais.
Pour une radio pirate, c'est quand même un drôle de destin. On va raconter rapidement, parce que évidemment, le gouvernement britannique ne peut pas laisser faire, donc il y a une loi qui va interdire ces radios pirates, et ça va finir, une première fois, puisque l'histoire recommencera de Radio Caroline, mais par quoi? Par un bon vieil abordage, c'est-à-dire d'un commando musclé qui vient faire le ménage?
Oui, d'abord, il faut dire qu'Harold Wilson, le Premier ministre de l'époque, avait sorti une loi qui interdisait que les radios émettent. Pourquoi? Parce qu'elles représentaient un danger pour la navigation et leur signal pouvait gêner la transmission des appels de détresse et l'organisation des secours. Donc là, il s'est dit, ok, là maintenant, j'ai de bons arguments pour arrêter tout cela. Et donc, les radios ont dû s'arrêter. La première qui s'est arrêtée, c'est Radio London. Ils étaient gentils. C'était les premiers, mais ils se sont dit, ok.
On s'arrête.
Ils sont arrêtés d'eux-mêmes.
Par contre, ça ne s'est pas passé comme ça chez nos amis de Radio Caroline. Eux, ils ont fait de la résistance.
C'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas débarquer.
Ils ont continué à émettre. Et là, ce sont les patrons de Radio Caroline eux-mêmes qui ont décidé d'aborder les deux bateaux dans un mouvement concerté. Ils les ont remorqués jusqu'à Amsterdam, ils ont descendu les DJs, ils les ont payés, ils les ont renvoyés à Londres sans explication, et l'affaire s'est terminée comme ça, en ce qui concerne ces deux bateaux.
Et alors, il y a aussi le destin des animateurs, des DJs de Radio Caroline et des autres, et ce destin, il est totalement lié à notre histoire, à celle de Radio Luxembourg, puisque cet empereur Roscoe dont vous nous parliez, alias Michael Pasternak, et bien sur Radio Luxembourg, il faisait Minimax. Roscoe, the Roscoe Show. Baby, the best music around. The radio show that lets you take a break. That's right. You're in charge of the music, just let me take over. Radio on Roscoe Radio. Georges, c'était de la radio en anglais. Il y avait une Radio Luxembourg émettait aussi en anglais.
Il a toujours fait n'importe quoi. Quand il était en France, il parlait en anglais. Quand il était en Angleterre, il parlait en français. Il passait ses jingles français sur Radio Luxembourg anglais. Il les passe encore maintenant sur les radios pour lesquelles il travaille aux États-Unis parce qu'il sévit toujours, Roscoe.
Ah, génial.
Mike Pasternak, que je vois souvent. Il sévit depuis chez lui, dans la vallée, à Los Angeles, dans une superbe maison. Il a son studio. Et il travaille, il fait de la radio syndiquée, c'est-à-dire qu'il travaille pour plusieurs radios, le même programme sur plusieurs radios.
Donc on l'écoute aux États-Unis.
Ouais, même ici, on peut l'écouter, il est sur Internet.
Bah oui, Sidonie.
Enfin.
Oui, mais je veux dire.
En sortant de ce studio, on va l'écouter.
Radio Luxembourg a récupéré pas mal d'animateurs de cette
Énormément. Ils sont tous devenus des potes, parce que, comme je le disais tout à l'heure, quand nos radios respectives s'arrêtaient à 3h du matin, on allait boire des coups dans des endroits pas possibles à Luxembourg. Le Luxembourg by Night, c'est quand même quelque chose de terrifiant. Et on se racontait nos histoires. Moi, je leur racontais mes histoires quand j'étais à Beyrouth. Eux, ils me racontaient des histoires quand ils étaient sur les bateaux. On refaisait le monde de la radio. C'était formidable.
Qu'est-ce qu'on leur doit, à ces radios pirates, à ces animateurs pirates? On leur doit des animateurs comme vous,
Bien sûr, par exemple, moi je suis un enfant des radios pirates. Ouais. D'ailleurs, je vous signale que tous les jingles que vous écoutez dans mes émissions, George Lang, les nocturnes de ça, Powerplay, c'est la voix de Bob Stewart qui était l'un des instigateurs de ces radios, et notamment sur Radio Caroline.
Radio Luxembourg, c'était quoi? C'était quand même un espace de liberté pour ces, DJs, c'est ça?
Oui, parce que ça marchotait plus ou moins avant qu'ils n'arrivent. Oui. Quand ils sont arrivés, on leur a dit « faites ce que vous voulez, faites comme sur les bateaux ». Ils ne s'en sont pas privés. Et je veux dire que c'était un joyeux bordel avec eux. C'était formidable. Moi, j'ai une nostalgie de cette époque. Je dois dire que quand j'écoute ces jingles, je me revois là-bas à la Villa Louvigny. On se voyait. Il y avait 5 mètres qui séparaient le studio français du studio anglais. Et on se faisait signe toute la nuit.
Merci beaucoup, Georges. C'est un bonheur de vous avoir dans ce studio de La Curiosité. On vous retrouve évidemment tous les week-ends sur RTL, du vendredi au dimanche, 23h, 1h du matin, la collection et puis les nocturnes.
RTL. La curiosité est un vilain défaut. Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.